France Inter.
Le réalisateur et producteur franco-espagnol Oliver Lache a vécu en France, en Espagne, en Angleterre et au Maroc. Il a signé Vous êtes tous des capitaines, Mimosa, La voix de l'Atlas, couronné du Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes, Viendra le feu, prix du jury Un certain regard, et Sirat, Grand Prix du jury à Cannes cette année, donc j'imagine qu'il connaît à force l'adresse de bon bistrot dans la ville balnéaire de la Côte d'Azur. Sirat est un très beau film, road movie mystique, existentiel et hallucinatoire, ayant pour décor les paysages lunaires des montagnes du sud du Maroc. On pense à Zabriskie Point d'Antonioni, The Sorcerer de Friedkin, remake du Salaire de la peur de Clouseau, Tarkovsky, Mad Max et plein d'autres références que j'aurais peut-être le temps d'évoquer. Mais bien qu'il y en ait une multitude, car l'esprit humain aime avoir des repères pour mieux appréhender ce qu'il découvre, ce film ressemble surtout à son réalisateur. Luis, incarné par Sergi Lopez, recherche avec son jeune fils Esteban, sa fille aînée qui a disparu lors d'une rave party dans le désert marocain. Avec leur camion parfaitement inadapté au terrain, ils vont suivre un groupe de marginaux qui souhaitent rallier une autre fête. Un périple initiatique à travers l'aride Atlas débute alors pour cette curieuse communauté, délibérément affranchie et géographiquement coupée de la société conventionnelle. De surcroît, il se peut que cette dernière soit en cours de destruction et l'on pourrait se demander qui de ceux qui sont isolés dans le désert ou de ceux qui vivent dans les infrastructures des villes ou villages sont le plus en sécurité. Enfin, je serais plus radicale. On peut se demander si la sécurité tout court existe quelque part et si l'humain n'est pas coincé dès sa naissance sur le pont qui relie le paradis et l'enfer dans la tradition islamique et qui donne son nom au film. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Oliver Lache.
Bonsoir.
Je vais essayer de faire un peu l'accent espagnol, mais pas trop, parce que sinon ça va être parfaitement ridicule.
Non,
vous
c'est
pouvez
très bien.
Prononcer votre
Lache.
Nom. Lache.
Lache.
Oliver.
Oliver Lache.
Oliver Lache.
Voilà. Super.
Bueno, bueno. Lancemos. Bon, quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
D'entendre des gens parler de notre travail. C'est une fébrilité qui traspasse entre les êtres humains, enfin sentir de la communion. Le cinéma, c'est un travail tellement exigeant, délirant, excessif, que quand même, après tellement d'années de travail, sentir qu'il y a un sens à ce que tu fais, ça donne de la paix.
Vous êtes quelqu'un d'excessif ?
Oui, en fait, j'ai pas un contrôle total de mes passions. Mais le métier me fait excessif. Enfin, je suis un junkie de l'image. Quand il y a une image qui me pénètre, que j'ai envie de tourner, je rentre un peu en transe. Enfin, moi et mon équipe, on va à la recherche de cette image là où elle se trouve et au prix que ça soit.
J'ai lu que vous envisagiez parfois d'arrêter le cinéma pour travailler à temps plein pour une association dont vous faites partie qui s'appelle SER. Alors en espagnol, SER, ça veut dire être, mais en polonais, ça veut dire fromage. Vous préférez les êtres ou les fromages ?
En fait, les deux choses. Le l'être s'exprime dans des petits détails, dans le goût. Oui, en fait, non, j'ai mon équilibre. Le SER, c'est le nom du fleuve qui passe à côté de mon village, c'est là que ma mère est née, et après avoir fait Viendra le feu dans cette vallée, j'ai acheté la maison de ma grand-mère et j'habite là-bas, et voilà, on a une association, etc. Mais bon, je suis un cinéaste long, et donc je fais un film chaque 5-6 ans, et ça me va, et ça me permet de faire d'autres choses à côté. J'aimerais bien faire du cinéma, c'est demander de l'amour, un peu. Non, les cinéastes, on fait un peu, on mendie de l'amour. Il y a des manières un peu plus faciles.
Vous pensez ?
D'avoir de l'amour, oui.
Mais en même temps, quand on fait des bons films, on a de l'amour de façon plus légitime, alors que quand on en mendie directement, c'est un peu plus grotesque.
Moi, je suis vraiment dans le remerciement à la vie de tout l'amour que je suis en train de recevoir avec Sirat, du métier, la cinéphilie internationale, des spectateurs. Peut-être que je dois arrêter de me faire ces questions, accepter, assumer que la vie veut de moi que je fasse des films. Et c'est bien, et il y a un service qui se fait. Enfin, je sens que j'ai un... Moi et mon équipe, on a un rôle, voilà. Je crois qu'à Cannes, le message était très clair. Les gens, ils ont aimé qu'on s'est jeté à l'abîme. On a été courageux. Le film, il est très, 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 très risqué. À beaucoup de niveaux. Et donc, il y a une certaine liberté derrière. Enfin, et les spectateurs, ils sentent de manière subtile, de manière secrète, ils sentent cette liberté.
Mais je croyais que vous ne croyiez pas au concept de liberté, que vous disiez que c'était quelque chose inventé par l'Occident.
Mais je mesure 2 mètres, donc j'ai beaucoup de contradictions.
Ah, alors c'est à partir de quel milieu vous êtes en contradiction avec vous, à partir d'un mètre?
La partie en haut.
D'accord.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Je ne dirais pas qu'on a travaillé avec de la liberté, on a travaillé avec de la foi, voilà. Je me corrige. On a eu de la foi. On a de la foi que si tu te jettes à l'abîme, il y a toujours un filet, même si tu ne le vois pas.
Comme dans Indiana Jones.
Effectivement, ouais. Et on partage les mêmes références cinématographiques.
C'est le souffle de Dieu, on lui demande de marcher dans le vide.
Ouais, mais en fait, on m'a montré ça après. J'avais complètement oublié cette séquence. Et ouais.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Oliver Laché, est-ce vrai que c'est un arbre en Galice qui vous a donné envie de filmer quand vous étiez enfant et une vallée que vous traversiez à mulet?
Je sais pas, peut-être. En fait, nous, on habitait au 16e, mes parents étaient gardiens là-bas et donc on traversait toute la France et l'Espagne. Et on arrivait là-bas, il n'y avait même pas de route goudronnée. Enfin, on devait mettre nos valises dans le mulet de mon grand-père et... Le choc était incroyable, et même en étant petit, je crois que tout ça, ça m'a traversé. Enfin, ça a modulé, sculpté ma sensibilité, j'imagine.
Et vous dites d'ailleurs que quand vous êtes passé de la France à l'Espagne et que vous êtes retourné en Galice, vous êtes passé de premier de la classe à dernier et que vous êtes devenu parfaitement déprimé et que c'est aussi grâce à ça que vous êtes cinéaste déprimé depuis vos 16 ans.
Non, en fait, c'était ici en France. On m'a fait un examen pour... je crois que je dessinais bien. On m'a fait un examen pour passer un an. Mais sauf qu'ils m'ont mis dans l'école espagnole. Et tout le monde savait lire, savait parler l'espagnol, donc j'ai passé effectivement d'être le premier, d'être spécial à être le dernier, non? Et oui, je me rappelle, ouais, c'était pas évident.
Vous êtes toujours mélancolique?
Non, je devrais l'être plus. Mon problème, c'est le contraire. Mon problème, c'est que je mets trop de baseline dans la vie. Quand il y a des moments que je devrais contacter plus avec
de
ma
vaseline.
Carence. Oui, en fait, que je...
De lubrifiant.
Lubrifiant, voilà, pour ne pas avoir mal. Au contraire, ce que j'ai appris, et Sirat a été un chemin pour moi, c'est de connecter plus avec cette carence, avec cette tristesse. Je le dis sans dramatisme, hein,
mais
de
célébrer
ma blessure. Et c'est ce que... Ouais, je suis content.
Mais vous trouvez que c'est un problème de ne pas être assez mélancolique? La plupart du temps, on fuit le spleen pour aller vers la joie, et vous, si vous êtes naturellement vers la joie?
Mais voilà, c'est ça dépend. Il y a tous, on a une psychologie très différente. Et moi c'est ça. Je dois être plus connecté à ma carence, ouais.
Mais pourquoi est-ce que vous devez?
Parce que en fait, ma psychologie, elle est très reliée aussi à l'orgueil. Et donc il y a un moment que mes pieds ne touchent plus le sol. Et c'est bien d'être mou. C'est bien quand je suis vraiment bien ancré, non? Et d'être mou, d'être... on dit en espagnol blando, blandito, d'être plus à l'écoute, d'être plus moins centré vers... moins narcissique, quoi. Tout simplement. Moi, le cinéma, pour moi, c'était une échappatoire. J'ai pas voulu connecter avec le présent et ça a été un outil parfait. Me faire des films, c'était un outil parfait pour... créer une réalité parallèle.
لا تخسرتوني انا. يلا جات الوقت ديالك. غادي نعول عليك باش القافله تقطع من الجبل. الشيخ بغى يموت في بلاده.
Oliver Laché, on entend un extrait de votre film Mimosa. Vous avez vécu 12 ans à Tanger, je crois.
Au Maroc, ouais.
Au Maroc en général et beaucoup,
ouais.
À Tanger.
Oui, 5 ans à Tanger et le reste un peu dans le sud, dans des palmeraies. Oui.
Alors justement, en parlant de Palmeret, je crois que c'est pendant le tournage de Mimosa que vous avez été inspiré par cette esthétique de fin du monde et des bruits de fête qui vous parvenaient de loin et qui ont inspiré Syrah.
Si, bon, je suis d'une génération que d'abord on n'a jamais trop cru au mythe du progrès. En étant même petit, on savait que c'était pas une société très soutenable ou qu'il n'y avait pas tellement une place pour nous. Je sais pas, on n'avait pas trop de référents dans cette société qui nous touchait le cœur ou l'âme, non? Et au Maroc, effectivement, bon, j'ai trouvé un peu plus de... un être humain un peu plus équilibré, on va dire. Avec ses contradictions, bien sûr. Et dans la palmeraie dans laquelle j'habitais, il y a un jour que j'ai commencé à entendre des beats de musique. Il y avait une rêve qui s'organisait. Et là, c'était beau. C'était, surtout, j'étais accompagné d'un ami qui est un soufi, un musulman orthodoxe. Je me rappelle d'être avec lui, de me promener là dans, où il y a tous les camions, tout cet écosystème de travelers, en fait, parce que le monde de la rave, c'est pas que la fête, c'est aussi le voyage. Et lui, il m'a dit, waouh, on est face aux musulmans du futur. Quand il a vu ses punks. Il était très, très stimulé. Et après, on a voyagé ensemble, il y a eu des dialogues très beaux. Moi, en 12 ans, les seuls étrangers que j'ai vus qui avaient une vraie curiosité de l'autre, c'était des toffers, des ravers, ou punks, ou je ne sais pas comment on les appelait. C'est les seuls que j'ai vraiment... C'est pas seulement qu'ils avaient un intérêt de l'autre, des berbères, des nomades, sinon qu'ils comprenaient l'autre. Et la preuve, c'est que c'est les seuls, notamment français, à part des académiciens, anthropologues, etc., qui quand même savaient parler quelques langues en arabe. Et ça m'a appelé mon respect dès le début.
D'ailleurs, dans votre film, il n'y a pas de langue officielle. On entend de l'arabe, de l'espagnol, du français.
Je suis un cinéaste d'accent.
Ah oui?
Oui. Enfin, ouais, je... Bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde où on doit parler plusieurs langues. Et dans cet univers, tout le monde parle énormément de langues.
Vous parlez quelle langue?
Moi, j'en parle, je crois que 8.
Lesquelles?
Ben, je parle donc l'arabe, enfin le darija marocain, l'anglais, le français, l'espagnol, le galicien, le portugais, le catalan et l'italien. Ouais. Bon, l'italien, oui.
On vous pardonne, c'est déjà pas mal.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
AFAC, a una.
Aquí solo hay polvo.
Oliver Laché, on entend la bande-annonce de votre film Syrah, qui sort sur les écrans demain. Le Syrah, c'est le pont entre le paradis et l'enfer dans la tradition islamique. Dans un article pour El País, vous dites qu'écouter le Coran vous enivre. Pouvez-vous développer?
Mais en fait, le divin, ou je ne sais pas comment on l'appelait, s'est exprimé dans plusieurs langues. L'hébreu, le sanskrit et aussi l'arabe. Et donc, c'est des langues qui ont une géométrie, on va dire, spirituelle ou des proportions qui sont lumineuses. Et déjà, enfin, lire le Coran traduit n'est pas très conseillable parce que c'est pas tellement une question de sens, c'est une question de forme. Et après, ça dépend de la voix de qui le récite. Il y a un petit morceau de Coran à Syrah qui est récité par Ali Killer, c'est un Écossais. Qui récite le Coran, c'est une voix prodigieuse, avec beaucoup de gradation. Enfin, c'est quelqu'un de très gradé spirituellement, et on le sent. Et oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quand j'écris ou quand je suis à la maison, de mettre à Lee Killer à réciter le Coran. Après, en même temps, j'aime beaucoup la musique électronique. Vous dansez, elle est très transcendantale, je danse beaucoup, oui, j'aime beaucoup danser.
Vous avez hésité à appeler le film « Je ne croirais pas à un dieu qui ne danse pas » d'après Nietzsche.
Oui, mais c'était trop rhétorique à la fin, bon, c'est mieux Serrat. Il y a de la musique à Serrat, c'est un mot avec de la baraka.
Vous pouvez traduire baraka pour ceux qui n'auraient pas...
C'est, voilà, béni, il y a une énergie, il y a une lumière qui se dégage, oui.
La danse joue un rôle très important dans le film. Vous avez filmé une rave party dans de vraies conditions. Il y avait un millier de personnes, de la musique ininterrompue. Je sais que ça a été difficile de convaincre tous les ravers d'être filmés, puisqu'ils sont naturellement méfiants. Et vous avez découvert, vous, que vous étiez naturellement un raver. Et vous dites, j'aime pleurer, crier et surtout ne jamais m'arrêter de danser, même si c'est la fin du monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'apogée de l'élan de vie peut aller avec l'apogée du désespoir?
Oui, en fait, c'est bizarre, mais le secret de l'univers, c'est ça. C'est que des fois, dans le moment de blessure ou d'accepter ton imperfection, ou dans le moment de carence, de fragilité, quand l'être humain est face à la vie, et il accepte sa vulnérabilité, là, il y a de la transcendance. Là, il y a quelque chose, il y a une lumière. Il y a une humilité qui est très verticale. Et oui, et moi, je trouve que c'est... en fait, la rave, je trouve que c'est vraiment... c'est une cérémonie qu'on a fait pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. C'est la société qui purge ses fantômes, son énergie, qui fait une catharsis énergétique, qui prie avec son corps, et que grâce à ça, empêche que ces côtés plus tordus s'expriment dans la société. C'est une manière de créer la société, de se purifier, de se nettoyer. Les Grecs, quand ils allaient au théâtre, la tragédie grecque, ils n'allaient pas au bistrot avant le théâtre et parler du camp. Non, non, c'était du travail. C'était pas, ils n'allaient pas s'amuser, c'était la société qui allait là-bas. En fait, la psychologie humaine, on a toujours une partie de nous qui est un peu plus inconsciente, on a une polarité. Et donc, l'art et ces cérémonies font qu'on habite ces polarités un peu voilées, cachées en nous, et qu'en les acceptant, voilà, on est plus sain, on est moins dangereux pour la société. Donc, je suis firmement pour qu'on arrête cette persécution bête des rêves. Je trouve que il faut célébrer la vie, il faut danser effectivement, même si ça veut pas dire qu'on n'accueille pas la douleur du monde. Danser, au contraire, le monde il a trop de poids, il a trop de poids, il faut enlever du poids. Donc notre responsabilité, c'est d'être heureux et de ne pas participer à cette peur qui fait qu'il y ait plus de peur et plus de douleur dans le monde.
Amber Decay du compositeur David Letellier alias Kang Ding Rei. La bande originale de Sirat a été récompensée de la meilleure musique à Cannes. Oliver Lachey, vous vouliez quelque chose justement de cognitif, pas d'intellectuel. Vous vouliez qu'on ressente le film avec ses tripes.
Oui, je trouve que on est dans un paradigme trop cartésien, et surtout l'art, il y a trop de clarté, il y a trop de rhétorique.
Vous ne pensez pas qu'on a peur du corps en Occident ?
Je pense que, ouais, on est un peu coincé. Oui, effectivement, on est trop dans la tête. Et c'est bien, là, en fait, le niveau de perception plus logique, rationnel est important, mais il faut descendre un tout petit peu le volume de cette antenne, et pour que d'autres antennes, la peau, les tripes, comme vous avez dit avant, le cœur... équilibre un peu, non? Sirat, je crois que ça provoque ça dans le spectateur. Il y a un moment qu'on prend... Le film a pris, à travers le suspense et l'aventure, le spectateur par un amasson, l'amasson. Et il y a un moment que le film... Enfin, on coupe le filet. Il y a un moment que le spectateur, il va tomber dans un fleuve, dans un courant d'images et de sensations que je trouve saines. Accident.
boy, please. You're sounding just a touch crazy. Like nothing but cigarettes and coffee can be.
We all want to be loved, but in my heart all I feel is.
Baby, that's a lot. It's enough to scare a strong man off. But it happens to the best of us, I swear. Obsession mistaken for lust. You're not in love.
But wait, I think it's just too soon to say. It isn't love, maybe not yesterday. Back then, I didn't feel this much.
Justement, on parlait du fait d'être trop dans sa tête et c'est ainsi que ce morceau commence. Oliver Sim et Cathy O'Neill, Obsession.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Oliver Laché, vous pensez que nous sommes tous des enfants blessés, que l'on se crée des mécanismes pour ne pas se connecter à nos blessures et pour vous, la culture rave nous connecte à nos blessures. Vous dites même que ce film, Sirat, vous a permis de vous connecter à vos blessures. Comment ?
C'est bizarre. Je trouve que En fait, j'ai étudié la psychothérapie Gestalt.
Qui est très corporelle.
Et on sent que le corps, il a quand même une mémoire. Il a une mémoire de cette douleur. Je dis ça sans gravité. Voilà, on est tous un peu blessés. C'est quoi être blessé ? C'est que quand on était petit, on a dû créer un masque. Ça s'appelle techniquement une névrose. Ces masques nous permettaient de recevoir de l'amour. Et c'était très bien. Et il faut être remerciement, avoir du remerciement de ce masque. Sauf que le problème, c'est que quand on est adulte, on l'utilise encore, ce masque. Ça s'est ancré dans nos gestes, dans notre manière d'être. Non effectivement, des fois, voilà, après, il y a des psychologies qui sont vraiment trop dans la blessure. Il y a d'autres qui sont peu. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, je trouve que voilà, qu'en dansant, beaucoup de fois, le corps nous connecte à cette carence, et ça a été mon cas. Et voilà, j'ai 40 ans, mais ça m'a pris un temps de reconnaître un peu cette fragilité, et c'est super, j'adore la danser, la prendre dans mes bras et la célébrer, ma blessure.
Vous semblez très nietzschéen, et Nietzsche encourage à embrasser tout de l'existence, justement, sans division. Et vous, justement, en parlant de blessures, on en voit des physiques et des bien réels dans le film, et on voit par exemple des bras, des dents, des jambes en moins, on voit des moignons dansant, et je crois qu'il y a un ami à vous qui joue dans ce film et qui a perdu...
Biggie.
Biggie. Il a perdu un membre lors d'une manifestation de Gilets jaunes.
Effectivement.
Avec une grenade.
Il a pris une grenade et elle a explosé à sa main. Un peu avant le tournage. Et ça a été dur pour Biggie. Tona, il a aussi, c'est un des autres acteurs, il a aussi perdu sa jambe dans un accident de voiture en Mali. Ça a été dur pour les deux, mais voilà, ils ont lu entre lignes, ils sont dans l'acceptation. C'est pour ça, c'est important. C'était très important de les avoir leur énergie dans le film. On sent que la vie les a fait humbles. Les a obligés à regarder à l'intérieur. Et on le sent dans ses gestes, on le sent, voilà, ils rigolent, ils s'amusent, ils célèbrent la vie. Et c'est un beau jeu de miroir pour le personnage principal du film, qui est interprété par Sergi Lopez. La vie va quand même le défier. La vie va le pousser au bord de l'abîme. Mais il va être bien accompagné de toute cette communauté de blessés qui évidence dans leur corps leurs blessures et dans leur silence et dans leurs gestes. Et voilà, c'est un film qui parle un peu de cette nouvelle famille, de cette communauté de blessés, non ? Je trouve qu'on rentre dans un monde que de plus en plus va nous pousser voilà, à l'abîme. Mais je trouve ça très positif. Le monde va nous demander qu'est-ce que c'est être humain. De plus en plus. Donc voilà, effectivement, il y a une décadence dans laquelle on en est, mais la décadence va nous pousser tellement, tellement, tellement loin que la seule réponse va être de se prendre les mains avec plus de force.
Mais elle ne va pas être immédiate, cette réponse. Hélas, on va d'abord traverser par beaucoup de sombreur, parce qu'il y a quelque chose qui frappe tout de même dans ce film, c'est que Sergi Lopez, il incarne donc Luis, qui a perdu sa fille et qui est avec son fils, et ce peuple de fêtards, de marginaux, au début, semble n'avoir absolument aucune compassion pour lui. Au début, il ne semble pas y avoir de solidarité, comme si finalement, toutes les tragédies qui allaient lier ce groupe allaient créer cette solidarité, mais pas à pas. C'est-à-dire, au début, il n'y en a pas. C'est très violent. Même pour faire la fête, c'est violent. On paye des passeurs comme pour des migrants.
Ça dépend. Je respecte votre interprétation, mais il y a d'autres qui ont cru qu'ils sont de la solidarité dès le début, ou au moins, pas de jugement.
Je trouve qu'ils le jugent. Ils disent...
Ils le préviennent. Ils lui disent...
T'arriveras jamais à nous
mais
suivre.
C'est une manière de prendre soin. Ils l'advertissent, c'est le désert, c'est pas en vacances, quand même, mais c'est prend soin aussi. Et après, il a sa mission. Il a sa mission avec son fils, ils doivent retrouver sa fille et coûte ce que ça coûte. Non
ça coûte cher.
Ça coûte cher. Mais en fait, c'est ça. La vie ne te donne pas ce que tu cherches. La vie te donne ce que tu as besoin. Et il y a une différence grande entre l'une et l'autre. Et c'est pour ça qu'on se frustre, les êtres humains. Et c'est pour ça qu'on croit que Dieu n'existe pas, ou qu'il est injuste s'il existe. Parce qu'on est trop obsédé avec ce que nous, on cherche. Et on ne sait pas lire qu'en fait, la vie, ce qu'elle est en train de nous donner, même si c'est une mutilation d'une main, c'est un cadeau. Même la douleur la plus atroce. Et j'en suis certain.
Vous avez toujours pensé comme ça ?
Non. Avant, j'étais un enfant. j'ai mouru.
Mais vous auriez pu être un enfant élevé dans cette idée ?
Si, mais ce n'était pas le cas. Enfin, quand je dis enfant, je veux dire que j'étais un adulte à 20, 25 ans, mais ma pensée était une pensée très infantiliste, non ? Un peu... Enfin, moi... les certitudes du cœur, elles sont pas à la mode aujourd'hui, non ? On est dans un moment de beaucoup de relativisme. Moi, au contraire, je trouve qu'il faut avoir des certitudes de cœur.
Mais vous comprenez qu'on puisse être révolté quand il nous arrive une tragédie et pas
tout
du tout voir le cadeau.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, et c'est normal, on est humain. On a beaucoup de récits de parents, de gens qui ont traversé l'enfer, mais que ça leur a permis de trouver en terre un paradis ou une émancipation, on va dire, non ?
J'aimerais bien savoir, puisque la plupart des acteurs ne sont pas des acteurs professionnels, en dehors de Sergi Lopez, comment est-ce qu'il a fait, lui ? Parce que les autres étaient des rêveurs.
Ouais.
Comment il a fait, lui, pour lâcher prise ? Je sais que vous avez eu le concours d'un chorégraphe, je crois.
Ouais.
Et il y a des scènes...
Kinsey.
Voilà, il y a des scènes de danse, il y a des scènes de drogue, il y a des scènes de douleur. Comment est-ce que lui a fait pour s'entraîner ?
Il n'y a pas des séquences de drogue.
Il y a des séquences
de la médecine.
De prise de substances qui changent les perceptions.
Si, on pourrait le dire. Mais c'est de la médecine, c'est pas de la drogue.
Drugs, en anglais, ça, c'est aussi les médicaments.
Oui. Oui, mais pas en français.
Pas en français, mais je me permets de rester ambigu.
Oh, très bien. Il faut restituer l'ambiguïté.
D'accord.
C'est très bien. Par contre, la question...
Comment il a travaillé, Sergi Lopez, physiquement, pour atteindre cela surprise ?
Sergi, c'est un punk. Sergi, c'est un artiste. Sergi, il se donne à son intuition. Il va aux limites. L'art, c'est aller aux limites. La culture rave, c'est aller dépasser les limites. Les spiritualités, c'est dépasser les limites. Je veux dire, lui, il se jette à l'abîme. Il met tout.
L'abîme, ça revient tout le temps. C'est aussi chez Nietzsche qu'on retrouve l'abîme. Vous y avez beaucoup plongé dans l'abîme. Nietzsche, il parle toujours de l'abîme.
Bon, c'est pas...
Enfin, toujours,
c'est la vérité, on va dire, la vérité de soi, non, l'abîme. On va dire, c'est le moment où la vie te demande, te met face à un défi, face à quelque chose de toi, elle te demande qui es-tu.
Et vous le savez, qui vous êtes ?
Moi, oui. Qui es-tu dans le... Enfin, oui, j'ai eu mes défis, j'ai eu mes rites de passage, et ouais, je crois que, par exemple, ce film était un... était traverser un pont très étroit avec ouais, et je crois que oui, que j'ai été fidèle à moi, ouais, je me suis pas menti, ouais.
Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. Somewhere up ahead, a hero is waiting. Max, the crack interceptor for the main force patrol.
I am the Night Rider! I am the Night Rider!
His only weapon, 600 horses of fuel-injected machinery. Mad Max. Pray that he's out there, somewhere.
Oliver Lachey, quand j'ai vu votre film, j'ai pris plein de notes et j'ai noté tout ce que ça m'évoquait, bien que ce soit un objet très singulier. J'ai noté Mad Max, j'ai noté The Sorcerer, qui est le film le plus nihiliste du monde, mais avec des paysages lunaires sublimes. C'est le remake du Salaire de la peur de Clouseau, Zabriskie Point, même Dune de Lynch, les plans lynchiens sur la route, et même Jerry de Gus Van Sant. Mais après, j'ai lu la presse et j'ai vu que tout le monde vous parlait de ces films. Alors, il y en a sans doute qui vous parlent, en effet. Je crois que Mad Max, ça vous parlait parce que vous vous êtes dit c'est le Mad Max zéro, Sirat, mais peut-être pas les autres.
Si, si. Non, moi, je dialogue avec les films pour des différentes raisons. Après, bon, à la fin, j'ai mon imaginaire, on en a parlé. Enfin, c'est clair que j'ai mon chemin, enfin... où j'ai habité, les choses qui m'attirent. Enfin, je suis tranquille à ce niveau, il faut parler avec les maîtres et être à leur hauteur. C'est un film qui a quand même, donc il y a l'aventure physique, et pour ça c'était très important de voir des films de genre américain ou bon le Clouseau qui aidait à avoir ce fil narratif qui devait être très fort et ce l'est. Je crois que le spectateur il est tout le temps accroché au film. Il y a un suspense qui est très bien construit, je trouve, enfin, d'après ce que je vois dans les salles de cinéma. Et donc, il y avait tous ces films. Après, il y a une dimension existentialiste. Les personnages de Sirat se demandent qu'est-ce qu'ils font ici, c'est quoi vivre, c'est quoi l'existence, quelle est mon mission dans le monde. Et quand on se pose ces questions importantes, la réponse, c'est la métaphysique, c'est s'abandonner, se rendre, se donner. Et là, oui, il y avait des films plutôt comme La Zone, Stalker de Tarkovsky. Donc voilà, je crois que Sirat, c'est un film qui est très très bien enraciné dans le physique et que ça permet. Et dans les voilà, c'est un film d'amitié, de famille. Je crois que notre regard sur les personnages est beau. On les aime, on les admire. Il n'y a pas de jugement. C'est célébratif. Et donc, comme c'est tellement bien enraciné, je trouve, ça nous permet de voler plus haut. Moi, à la fin, j'ai envie de aussi évoquer le divin, évoquer la transcendance, évoquer le mystère du monde. Il y a quand même de l'étrangeté dans le film. Et pour cela, il faut faire confiance au cinéma, faire confiance aux images, non, et à et à l'ombre qu'ils ont les images, non, à la poésie des images.
Je crois que l'un de vos premiers courts-métrages, non, l'un des premiers scénarios que vous avez écrit, je le dis de mémoire, alors je me trompe peut-être, c'était sur l'ombre. Et dans Sirat, on est en plein soleil, et j'ai l'impression que chez vous, la lumière surgit forcément de la noirceur.
C'est un équilibre qu'il faut chercher entre être clair. On a l'obligation d'être clair avec les spectateurs, je pense toujours à les spectateurs, mais on a l'envie d'être obscur, ou au moins, je suis arrivé à comprendre qu'il n'y a aucune manière d'être plus clair avec les spectateurs que d'être obscur. Des fois, quand tu mets un voile, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans l'art, la culture, il y a trop de clarté, il y a trop de rhétorique, trop d'auteur, il y a trop... L'auteur veut dire trop de choses, et à la fin, on n'entend rien, on sent rien. On a éliminé l'ombre, la polysémie, le lyrisme, le subtil n'est plus dans l'art. Je ne suis pas en train de dire que mon travail est... Mais je cherche cet équilibre entre dire et évoquer. Et on est en train de le voir dans les salles de cinéma avec Sirat. En Espagne, on a fait 400 000 entrées. C'est un film, c'est beaucoup pour l'Espagne. Et c'est un film qui, c'est un film que les spectateurs, même le spectateur non cinéphile, sent des choses dans son corps. Et là, il y a une intelligence, là, il y a une sagesse du corps. Et je trouve ça très, très, très intéressant, non?
Vous parliez de métaphysique tout à l'heure. C'est vrai que c'est un film métaphysique. On est dans le désert, il n'y a absolument aucun repère. C'est comme une sorte de purgatoire. Combien de temps vous pourriez survivre dans ces conditions, vous? Est-ce que ça vous fait peur, ce manque d'infrastructure, ou est-ce que ça vous fait fantasmer?
Le désert.
Oui, l'absence d'infrastructure.
Bon, j'ai peur, bien évidemment. J'ai peur. Le désert, c'est un lieu très spécial. Parce que, voilà, tu sens ta limite, tu sens... Tu peux pas te cacher, en plus, dans le désert. Tu peux pas te cacher derrière un arbre ou derrière un rocher. En fait, t'es obligé à regarder à l'intérieur. Et bon, moi, j'aime beaucoup mettre comme un exemple un autre désert, celui des Indes. Là, l'avion qui a tombé dans les années 70. Ils ont été 2 mois à, je crois, 6000 mètres d'hauteur. Cette équipe de rugby, ils avaient 20 ans. Et ils ont fini par se manger les uns les autres, enfin ceux qui mouraient. Quand tu les écoutes parler de ce moment-là, ça leur manque. Ça leur manque aujourd'hui. Ils ont perdu leur famille là-bas, mais ils ne changeraient rien. Ils changeraient rien de leur vie.
Qu'est-ce qui leur manque? C'est l'intensité.
Ça leur manque le dialogue qu'ils ont eu à travers la mort avec la vie. Ils n'ont jamais été si proches de la vie. Ils ont été tellement poussés, encore une fois, à l'abîme, qu'ils ont sorti le mieux. Là, ils étaient dans le service de l'autre, camarades, dans les soins. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. On revient donc au désert de sable. Et c'est ça, je trouve que c'est un miroir de l'âme. Et c'est pas pour rien que dans le désert, c'est là que l'être humain aussi a beaucoup de traditions spirituelles se sont développées dans le désert, non? Il y a quelque chose qui se passe, non? On est distrait, on est très distrait dans la réalité, et surtout aujourd'hui. Et là-bas, t'es concentré, tu regardes à l'intérieur, ou au ciel, que c'est un peu la même chose.
Il y a des allusions à la guerre, que ce soit dans le passé, puisqu'il y a des vestiges de la guerre. Je veux pas dire ce qu'il y a, mais il y a des souvenirs physiques qui deviennent hélas plus des souvenirs, des choses du présent, et des allusions à peut-être une possible Troisième Guerre mondiale. Et c'est ainsi un film sur la mort. Vous dites qu'on est profondément thanatophobe, qu'on a expulsé la mort de son cœur, mais déjà, est-ce que ça vous paraît compréhensible? Et deuxièmement, vous êtes franco-espagnol, plus espagnol culturellement. L'Espagne, c'est un pays qui a un rapport particulier à la mort. Qu'il ne le fuit pas.
En plus, je suis galicien, qu'on est un peu en Espagne, on nous dit qu'on est les sorciers, non? On a, bon, je ne sais pas si c'est la tradition mégalithique ou la celte, mais oui. Moi, quand j'étude, je travaille beaucoup dans notre association avec des anthropologues et des archéologues, etc. On est en train de faire pas mal d'études là-bas où j'habite. Quand tu étudies les traditions, tu vois tous ces cérémoniales qu'on faisait avant, qu'on pouvait expérimenter la mort. De la même manière que la culture, une fête, une teuf, c'est vraiment une cérémonie aussi, comme le carnaval, pour pouvoir purger une énergie négative, non ? Et protéger la société d'elle.
Comment est-ce qu'on peut purger quand on est tout seul chez soi, par exemple, et qu'il n'y a pas de rave accessible ?
Mais c'est difficile. Mais les gens, l'énergie, il y a vraiment un colique d'énergie. Enfin, c'est ça. Un colique, on dit pas en français, c'est quand dans les tripes il y a une fermeture. Donc c'est pas un colique spirituel, on va dire, ou d'énergie.
C'est plutôt quand il y a une ouverture en France, la colique.
Ouais.
Oui.
Ah ouais. Bon, ben le contraire, c'est quand ça passe.
Une constipation,
oui. Voilà. Oui, c'est un problème. Bon, c'est pour ça que les gens font beaucoup de sport. C'est pour ça que les gens vont au foot. Non, c'est une manière de. C'est la manière qu'aujourd'hui a la société de faire un petit nettoyage, quoi, énergétique, enfin.
Une cérémonie.
Si, en fait, c'est dommage que c'est pas plus cérémonialisé. Que c'est mieux. Ce serait bien de toute cette énergie de la. En fait, je trouve dommage, quand je vois tous les gens qui font du sport, je comprends, mais moi j'habite dans une montagne, on est 4 personnes par kilomètre carré, on a un grand problème d'abandon du rural. Donc, toute cette énergie qui s'emploie à courir, à faire du vélo, je trouve que ça me fait de la peine qu'on l'utilise pas, cette énergie, pour prendre soin, comme jardinier, un peu de la nature. Elle en a besoin de nous, sinon elle va tout brûler. Et...
Vous avez... failli perdre une maison dans un incendie, ça vous...
Oui, la maison où j'habite, elle a failli brûler dans un incendie. Ouais. Cet été, on était entourné de flammes.
Vous avez fait viendra le feu, après ou avant ?
Je l'ai fait avant, je l'ai tourné en 2018. Dans les incendies de ma région. Et... ouais.
Qu'est-ce qu'on entend, Oliver Lachey ?
On entend Rival Console, c'est un musicien qui fait de la musique électronique, il est anglais, et c'était un référent pour le travail musical que j'ai fait avec David Letellier, Kindin Ray. Je trouve que c'est un morceau, il y a beaucoup d'existentialisme, il y a un petit peu de mélancolie, c'est très beau. Je trouve que la musique électronique, le fait qu'on ne connaît pas la source de ce son, là on dirait vraiment des trompettes du ciel, non ?
Et on sent
comme si c'était un nouveau monde aussi qui naît, non ? Il y a une mélancolie, mais en même temps il y a un peu d'espoir, il y a un peu de lumière, non ? Et c'est un peu ça que j'avais envie aussi d'évoquer dans le film. Après, bon, j'ai pas envie d'interpréter mon film. Chacun peut faire son interprétation, mais à la fin, j'avais envie qu'on sente qu'il y a quand même un nouveau monde qui naît.
Vous aimez Robert Bresson, Tarkovsky, vous l'avez cité tout à l'heure, Kiarostami. Est-ce que vous auriez, pour terminer cette émission, là, dans les quelques secondes qui nous restent, des films ou des livres ou n'importe quoi à recommander aux auditeurs ?
Ben alors, il y a un livre... d'un autre réalisateur qui est lituain, qui s'appelle Jonas Mekas.
Ah oui, bah bien sûr.
Et en fait, ce livre s'appelle « Je n'avais nulle part où aller ». Je trouve que c'est un livre hyper beau, d'une beauté scandaleuse. En fait, c'est un récit de quand il était prisonnier. Enfin, il était dans des champs de réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il parle de tout, de comment il a émigré après aux États-Unis, etc. Je trouve que qu'il parle très bien avec, il dialogue très bien avec cette actualité où il y a tellement de réfugiés. Et ça nous fait un jeu de miroir très beau.
On terminera sur cette idée de beauté scandaleuse. Merci beaucoup, Oliver Lachey.
Merci à vous.
Votre film Sirat sort en salle demain et il est très beau. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Selim Gheribi. Bonsoir.